Il y a quelques mois, j'étais tombé sur le travail de Max Lollom, un journaliste de 28 ans qui a réalisé une série documentaire publiée sur YouTube avec Arte qui m'a beaucoup fait réfléchir. Max, il est français et au moment de la réélection de Trump en novembre 2024, il est retourné aux États-Unis où il avait passé une année dans un lycée en Oklahoma. 10 années auparavant, il avait alors 16 ans. High School Radical, retour chez mes potes Trumpistes, est une enquête dans laquelle il tente de comprendre ce qui a poussé la plupart de ses amis de l'époque à mettre le bulletin rouge dans l'urne. Ce qui m'a marqué dans sa série, c'est la polarisation de la société américaine sur laquelle il a mis le doigt. Au cours des dernières années, c'est une véritable haine de l'autre de la part des sympathisants des deux camps, républicains et démocrates, qui s'est instillée.
Et puis dans la queue du meeting, j'ai discuté avec mon voisin qui m'a dit un truc très clair sur les républicains.
These are just a bunch of overweight people with a bunch of guns in their house that want to go, you know, use them. One thing that they don't understand is Republicans aren't the only ones with guns.
Le dialogue est rompu. Chaque camp pense que l'autre n'est constitué que de demeurés incapables de faire fonctionner leur cerveau. Une ambiance pré-guerre civile, qui a d'ailleurs inquiété Max et sur laquelle il a mis les mots.
Ils sont broyés par leur modèle économique, qui est à bout de souffle en plus, et pourtant, ils votent pour celui qui incarne le plus ce modèle. Et puis, au-delà de ça, je commence à prendre au sérieux cette menace de guerre civile. Ils me proposent de rester boire un verre, et j'hésite parce qu'ils ont vraiment été très sympas, mais la vérité, c'est que tous ces discours m'ont fatigué. Et j'ai envie de rentrer.
À ce moment-là du visionnage de son documentaire, me sont revenues les images de Civil War. Ce film d'anticipation d'Alex Garland, sorti en 2024, imaginant les États-Unis d'un avenir très proche, en proie à une guerre civile après l'annonce de leur président d'un passage en force de la Constitution pour s'arroger à un troisième mandat, au-delà de la limite des 8 ans au pouvoir cadré par ce texte fondateur des États-Unis. Max Lollom dépeint cette nation déjà au bord du gouffre, fin 2024. Le parallèle était vite trouvé dans mon esprit avec l'état actuel des relations entre électeurs et électrices des trois blocs politiques actuellement représentés dans notre pays, en France. Alors oui, on est encore loin d'être à feu et à sang comme dans Civil War, mais quand on voit toutes les difficultés que peuvent avoir à communiquer deux personnes de deux bords politiques différents, la colère qui se transforme rapidement en haine, notamment sur des affrontements de manifestants violents surmédiatisés comme au moment des Gilets jaunes ou sur les mobilisations autour de Sainte-Soline, la question se pose. Est-ce qu'on veut ça en France ? Comment renouer le dialogue et redéfinir notre relation avec celui ou celle avec qui on ne partage pas les mêmes idées politiques ? Ce clivage, est-ce qu'il est bon ou au contraire doit-on soigner la cohésion sociale dans le pays ? Et d'ailleurs, d'où vient ce point de friction ? De quoi se nourrit-il ? Comment désamorcer les tensions qu'on traverse actuellement dans notre société pour s'unir, pour avancer d'une voix face à la montée du thermomètre ? On en parle dans ce 8e épisode de Génération plus 3 degrés. Vous vous souvenez quand je vous parlais des Jetsons ? Le dessin animé des années 1960 de Hanna-Barbera dans l'intro de l'épisode précédent. Eh bien, ce qu'on apprend dans la série, c'est que le travail dans cette société futuriste était complètement différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Le père de famille des Jetsons ne travaille que 3 heures par jour, 3 jours par semaine, soit au total 9 heures par semaine. On est loin, très loin des 35 heures de notre époque. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on n'en est pas là aujourd'hui ? Puisque rappelons-le, les Jetsons étaient un dessin animé états-unien des années 60, c'est-à-dire à destination d'enfants pendant la guerre froide. Il n'était absolument pas question de faire l'apologie du communisme dans les US de l'époque. Alors comment des idées comme la réduction du temps de travail qui aujourd'hui sont attribuées à la gauche sociale se sont retrouvées dans un dessin animé faisant la promotion de l'avenir de l'American Way of Life ?
On n'en est pas encore, mais c'est aussi parce qu'on est dans une période de transformation et on n'a pas encore fait les choix qui s'imposent.
Jérémy Lamry est auteur et entrepreneur. Il travaille depuis des années sur le futur du travail.
Moi, il y a un exemple que je fais chaque fois que je vais dans les entreprises. Je demande aux gens, qui parmi vous utilise l'IA aujourd'hui, comme ChatGPT par exemple ? Tout le monde lève la main en 2026. Et je leur dis, super, grâce à ça, vous avez gagné du temps. Qui parmi vous a plus de temps à la fin de la semaine ? La personne lève la main. Pourquoi ? Parce que quand avant, tu faisais un truc sans ChatGPT en une heure et qu'après, avec ChatGPT, tu le fais en 3 minutes, après, tu ne tournes pas de les pouces pendant 57 minutes. Tu continues ton truc et la nature aimant pas le vide, ça s'empile, ça vient, ça continue à venir et tu continues à faire ce que tu as l'habitude de faire. Donc à la fin de ta semaine, tu as fait plus de plus. Alors que si quand tu gagnes du temps avec l'IA, tu te dis, tiens, combien j'ai gagné de temps? Tiens, là, j'ai gagné 45 minutes sur cette tâche. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Et ben, il n'y a que comme ça que tu peux te dire, ben, si j'ai gagné du temps avec cette tâche et que je sais comment je vais utiliser ce temps, il n'y a que là que tu peux dire, en tant que dirigeant, en tant que société, en tant que travailleur, je vais investir ce temps pour tel genre de choses. Sinon, vraiment, la nature n'aime pas le vide et tu fais juste ce que tu as l'habitude de faire.
Au printemps 2025, j'étais allé à la Cité des Sciences, un rêve de gamin que je n'avais alors jamais réalisé, et après la visite, passage obligatoire par la boutique Souvenir où des livres sont vendus. Et là, sur un présentoir, je tombe dessus. 2040, 5 futurs possibles et comment s'y préparer de Jérémy Lamry, qui venait tout juste de paraître. Le sujet m'intéresse, je passe à la caisse. La lecture de ce livre m'a apporté beaucoup de réponses à des questions que je me posais depuis longtemps et m'a amené probablement tout autant de nouvelles questions. Quand avec Simon et Anaël de Radio Campus Angers et Radio Phoenix, on avait commencé à discuter de ce projet de série autour du réchauffement planétaire et de la question du droit social, j'ai immédiatement pensé à Jérémy. C'était l'invité avec un I majuscule que je voulais avoir absolument à mon micro. Justement autour d'un concept qui a été pour moi une révélation, la notion du quaternaire. Ça, on y vient bien vite.
Il faut partir un petit peu du constat. On se demande beaucoup si, par exemple, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y aura du travail pour tout le monde demain? C'est une vraie question. Et en fait, quand on me pose cette question, pour moi, la réponse, elle est assez simple. Elle est de dire, ça dépend ce qu'on appelle travailler. Si, par exemple, travailler, c'est l'activité rémunérée qui consiste à créer de la valeur économique, donc être consultant, être directeur produit, être je sais pas quoi, il y a de fortes chances que demain, l'IA et la robotique puissent faire tout ça à notre place. Et donc moi, travailler, je pense qu'au 21e siècle, ça veut dire autre chose et je pense notamment que ça parle beaucoup à la nouvelle génération. Travailler, ça devrait être en fait contribuer à la société. De contribuer à faire en sorte à ce que les gens se sentent mieux, contribuer au lien social, contribuer à rendre la planète de nouveau habitable, tous ces sujets-là. Et si demain, on arrive à mettre un modèle économique là-dessus, et ben en fait, quand on fera ces choses-là, on pourra être payé pour le faire.
Et c'est là qu'on y arrive, le quaternaire.
Et ben c'est comme tu viens de le dire, le quaternaire, c'est ce qui vient après le tertiaire. Et en fait, ça a presque toujours existé. Mais notre économie ne l'a jamais reconnu, parce que le XXe siècle, il consistait à produire des richesses. Ça, c'était un peu la force d'une économie qui se disait « on va prendre des trucs et on va le transformer en autre truc qui va le plus cher ». On appelle ça l'économie extractiviste. Et donc, on a le secteur primaire, l'agriculture, on extrait du sol, tout ce qui va être l'extraction minière, on extrait du sous-sol. Et puis après, on va avoir l'industrie où on transforme et l'économie des services, le tertiaire. Et en fait, quand on bosse dans l'associatif, quand on bosse dans la santé, quand on bosse dans la solidarité, quand on bosse dans tous ces métiers-là, on se dit, ben, est-ce que c'est dans le tertiaire? Aujourd'hui, on dit que oui, moi, je dis que non. En fait, pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, la santé, l'éducation, la solidarité, c'est pas une histoire d'offre et de demande. C'est-à-dire, s'il y a plus de demandes, ça vaut plus cher. C'est un truc auquel tout le monde devrait avoir droit. C'est respecter la planète, c'est pas une histoire d'offre et de demande, c'est une histoire de faire société et de survie. Et donc, tout ça, ça rentre dans une autre case qui s'appelle le secteur quaternaire et c'est ce qu'on appelle toutes les activités non marchandes. Celles qui ne devraient pas être des activités liées à une question de capital, mais qui devraient être juste des sujets de nécessité publique. On appelle ça de bien commun. Le secteur quaternaire, c'est ce qui rassemble toutes les activités qui permettent le bien commun.
Zero Waste Orléans, typiquement. Maxime et Alix font du quaternaire, par exemple, sans le savoir, sans poser le mot dessus, du moins. Comme des centaines d'associations partout en France, d'ailleurs. Toutes celles et ceux que nous recevons à notre micro tout au long de l'année sur nos antennes des radios associatives sont le secteur quaternaire. D'ailleurs, moi non plus, je ne savais pas que je faisais partie du quaternaire en tant que travailleur d'un média associatif comme Radio Campus. C'est pour ça que la lecture de son livre a été pour moi une vraie révélation. Pour la première fois, j'arrivais à m'expliquer, à moi-même et à mon entourage, ce que je faisais et comment ça s'inscrivait dans la société. Mais au-delà de la lecture de son livre, cette rencontre a été véritablement inattendue. Comme à mon habitude, j'ai préparé ma rencontre avec Jérémy ou n'importe quel autre invité en me faisant une note, fléchant des sujets à aborder pour nourrir la discussion et amener des réflexions. Au début, tout se passe bien. On discute, la confiance s'installe, mais rapidement, il se passe quelque chose que je n'avais absolument pas anticipé. Jérémy m'emmène aux confins de ce que je savais ne pas savoir jusqu'à me faire voir ce que je ne savais pas ne pas savoir. C'est méta. Autant dire que tout mon plan d'entretien tombait à l'eau. À un moment donné, je regardais mes notes et je me rendais compte que plus aucune question ne faisait sens. Jérémy les avait devancées, avant même que je les pose. Mieux encore, il m'avait amené si loin dans la réflexion du cadre global dans lequel mes thèmes étaient, que mes interrogations de départ s'étaient résolues d'elles-mêmes, sans plus avoir besoin d'en parler que ça. Mais enfin, bref. Pour contribuer à la société, en tout cas comme l'entend Jérémy et avec le modèle actuel dans lequel la contribution se fait souvent par la mise à disposition de son temps bénévole, dans l'associatif par exemple, et non par le salariat, il faut du temps. Et le temps, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre.
Et pendant le Covid, en effet, on avait du temps, je pense qu'on pouvait s'ennuyer. Et puis ça a révélé, je pense, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu énormément de reconversions suite au Covid, c'est même certain. En fait, on a eu du temps pour réfléchir et pour penser, et justement pour sortir d'un moule, entre guillemets, dans lequel on est tous les jours, dans notre routine.
Dans lequel on est retourné plus vite qu'on est sorti, d'ailleurs.
C'est vrai aussi. Et en fait, je pense que c'est un peu inévitable, ce métro-boulot-dodo. À partir du moment où on est là, on n'a plus le temps de réfléchir, ou du moins moins. Moins le temps de philosopher aussi.
Le temps, c'est un luxe. Ça me fait penser à une autre lecture. En septembre 2024, la docteure Sylvie Royan-Parola sortait « Notre sommeil, une urgence absolue ». Dans un passage vers la fin de son essai, elle écrit, je cite, « Conduire l'autre à ne pas dormir est une position de domination qui est rarement perçue comme telle. » Fin de citation. Plus tard, en parlant de l'Assemblée nationale et des sessions pouvant durer des heures jusqu'au bout de la nuit, elle dit « Ces horaires tardifs sont aussi un moyen d'expression des plus résistants sur les plus sensibles à la privation de sommeil pour imposer une décision. » Encore une fois, la domination, cette fois-ci par le temps. Mais qui a le temps de se permettre de changer ses habitudes ? Changer ses habitudes pour commencer à faire ses courses au marché, à cuisiner local, à réparer plutôt que de jeter, le temps de s'engager dans une asso ou s'informer en profondeur sur les sujets d'actualité ou même lire attentivement toutes les propositions de loi débattues à l'Assemblée nationale. Et là, à ce moment-là de l'enquête, je sens que je passe à côté de quelque chose. Je n'arrive pas encore à le formuler, mais je commence à poser des mots dans une question que je formule à Maxime et Alix.
Tu pars sur du capital culturel et éducatif. Il faut avoir un certain niveau de conscientisation, un certain niveau intellectuel pour se dire « Tiens, peut-être que je vais gagner au change à changer mes habitudes, qui est un processus énergivore, etc. pour aller vers quelque chose que je ne connais pas, quelque chose que je ne m'identifie pas, même peut-être comme classe sociale. Mmh. » On entend souvent le mot « les bobos écolos », etc. Le zéro déchet, c'était quelque chose qui est associé à être un bobo écolo. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur, en fait? On peut aller sur la question du mépris de classe aussi.
Et là, je pose deux mots. Deux mots hyper importants pour la suite de cet épisode. La peur et le mépris de classe. La peur, on va y revenir. Mais le mépris de classe, là, on touchait quelque chose du doigt.
Je pense qu'il y a des fausses croyances. Alors, en ville, certainement. Je pense qu'en ville, il peut y avoir des quartiers plus ou moins défavorisés. Et là, en effet, les pratiques sont différentes, je dirais. Mais je pense aussi qu'il y a un grand nombre de personnes, mais là on est peut-être plus sur de la ruralité en fait, qui pratiquent le zéro déchet mais sans le savoir parce qu'ils sont plus sur du circuit court.
Ouais.
Alors peut-être qu'ils n'apportent pas leur tupperware chez
les bouchers,
ou à la ferme du coin, mais en fait finalement la ferme du coin ils repartent avec leur cagette, donc là il y a pas, enfin le déchet est quand même limité, il n'y a pas de plastique du moins. Voilà, mais après en ville, c'est vrai qu'on a cette idée là du bobo qui va dans son magasin vrac, et en même temps c'est déjà très bien qu'il y ait ça, mais peu importe ce qu'on pense de ces personnes là, bobo ou pas d'ailleurs.
D'ailleurs, au passage, ce constat que fait Alix, Jules du Gâtinais Libre le fait aussi.
Et en fait, le monde paysan est d'une certaine manière écolo, puisque depuis toujours il fonctionne avec des pratiques. Enfin, extrêmement logiquement plutôt respectueuse de son environnement, puisque Parce que c'est l'endroit où ils vivent et du coup ils y sont attachés. Le fait d'avoir des animaux, enfin je généralise un petit peu, mais de manière générale, le monde paysan est résilient dans ses pratiques, un système de réutilisation, de récupération. Après évidemment il y a eu la révolution aussi avec les engrais, les produits chimiques qui a beaucoup changé la donne et notamment qui a créé une dépendance des agriculteurs vis-à-vis de tous les engrais, les produits chimiques, puisque pour augmenter leur production, ils ont dû utiliser tout ça, mais factuellement le monde paysan est par définition écolo, c'est pas compliqué.
Finalement, est-ce que ça serait ça, le mépris de classe? Une incompréhension dans les pratiques culturelles de deux groupes sociaux, d'un côté une classe plus précaire économiquement, souvent rurale, qui a déjà des pratiques de réemploi, de circuits courts, qui avaient été perdues en ville, et de l'autre une classe plus aisée économiquement, mais aussi plus entre guillemets cultivée, les fameux capitaux économiques et culturels de Pierre Bourdieu, qui dessinent des catégories sociales aux frontières parfois poreuses, mais qui décrivent à leur échelle une cartographie de la société française. Est-ce qu'il ne serait pas là le problème? Le fossé se creuserait entre celles et ceux que Bourdieu place avec un capital économico-culturel modeste, d'une part, et d'autre part, celles et ceux qui ont ce capital plus élevé. Une discrimination dont je pensais qu'on ne parlait que très peu, finalement. Sauf que, sur une réunion de rédaction pour la prod de cette série, quand j'en ai parlé avec Anaël et Simon, pour eux, ça allait de soi. Rien de nouveau, finalement. Pire, je me suis rendu compte que beaucoup de mes invités l'avaient déjà vu avant moi. Quand je demandais à Magali ce qui ressortait dans les témoignages des étudiants avec qui elle travaillait, elle me répondait
« Un petit peu les questions de classe sociale ou de niveau social par rapport à un certain texte que je lis de Luc Julia qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas », enfin que je lis, que je leur transmets ou que je leur lis, où lui il parle vraiment d'un monde magnifique où on aura accès à ça et ça et ça et ça. Et là, ils sont capables de remarquer que ce qui est proposé ne concernera que très peu de gens.
Ce fameux texte où on parle de la femme, de l'homme qui discute avec sa belle-mère sur le frigo connecté.
Voilà, c'est ça. Ce fameux texte, je pense qu'il y a une ou deux personnes seulement sur l'ensemble des étudiants que j'ai vus qui notent le problème de genre dans ce texte.
Ouais.
Les étudiants, à ma surprise, passent totalement à côté du problème. Vraiment totalement. Par contre, ils notent le côté inaccessible pour le commun des mortels et uniquement réservé à des personnes très très riches.
Le mépris de classe, c'est finalement une autre forme de domination, de discrimination, on ne refait pas le dessin, hein, d'un individu ou d'un groupe d'individus sur un autre en raison de différences, blablabla. Mais dans ce contexte, sur quelles différences ça se base? On a commencé à y répondre, il y a un enjeu de capital économico-culturel, mais ça ne dit pas tout. J'ai soumis l'idée à Jérémy pour savoir comment lui, il l'analysait.
Dans certains milieux, tes idées déterminent qui tu es. Et donc, si tu n'as pas cette idée-là, alors en fait, en vrai, tu n'existes pas. Si la réalité que tu as autour de toi n'est pas là, alors tu n'existes pas. Et ça, c'est terrifiant de se dire que si l'idée de quelqu'un d'autre, en fait, prend le dessus, je n'existe plus, en fait. Et ça, c'est le problème des gens qui se définissent par leurs idées plus que par qui ils sont.
Là, on tient quelque chose.
Et tu veux savoir si tu vas, on va encore plus loin que la peur. C'est la vraie peur profonde de tout être humain. C'est la peur de ne pas exister, la peur de disparaître.
Et vous vous souvenez quand je vous disais que cette rencontre a changé quelque chose dans ma manière de voir les choses? C'est à ce moment précis de l'entretien que tout a pris une autre dimension. Que je me suis rendu compte que si je n'avais pas enregistré ce moment précis, je serais passé complètement à côté de la raison d'être de cette enquête tout entière.
Et donc, souvent, la peur de disparaître, c'est la peur de la mort. Mais par exemple, pour des personnes qui se définissent par leurs idées, c'est la peur que leurs idées meurent, que leurs idées soient détruites, que donc eux soient détruits. Si, quand tu rencontres une personne qui est très vindicative, une personne qui est très braquée, tu peux être sûr que derrière, il y a une peur de ne plus exister. Et tu dois juste comprendre ce qui incarne cette peur. Et plus tu vas appuyer dessus, plus tu la braqueras. Donc, si tu veux que la personne, en fait, elle ouvre les yeux, il faut que tu arrives à faire en sorte de ne pas titiller cette fameuse peur, mais plus de rassurer sur le fait que c'est pas parce que tu écoutes mon idée que tu vas plus exister, en fait.
La peur, c'était là, sous mon nez, depuis le début. C'est la peur de l'autre qui crée la haine, puis crée les discriminations dont on parle depuis le début de cette série. Tout devient clair. Si on se retrouve à devoir se demander comment garantir le droit des personnes face à la montée du thermomètre, c'est parce que ces personnes seront exposées à un moment donné aux discriminations et à la limitation de leurs droits. Et ces discriminations prennent substance dans la peur que ces populations fragilisées provoquent, souvent malgré elles, à celles et ceux qui ont le pouvoir.
Est-ce que tu sais quel est le premier symptôme d'une société qui ne traite pas ses peurs? Le premier truc que les gens font?
Attends, laisse-moi un instant pour réfléchir. À l'échelle d'individu ou à l'échelle de collectif?
Ah ben, ça se traduit très vite. Bon, on peut commencer à l'échelle d'individu, mais c'est pareil pour un collectif.
Quand t'as peur, c'est le mouvement de recul?
Non. La première chose que tu fais en tant qu'individu quand tu as peur, c'est que tu accumules. L'accumulation matérielle est le premier mécanisme de compensation que tu vas utiliser pour essayer de traiter une peur. Et donc, je t'explique pas ce que signifie le Black Friday dans notre civilisation.
Waouh, mais quel cliffhanger de dingue! Et oui, cet épisode 8 de Génération plus 3 degrés est tellement long parce qu'il y a tout simplement énormément de choses à dire que pour pouvoir le passer à la radio, on va le couper en deux parties. Donc ça, c'était la première partie de l'épisode 8. Rendez-vous demain à 11h30 pour découvrir la deuxième partie de ce 8e épisode. Génération plus 3 degrés, une série originale Radio Phoenix, Radio Campus Angers et Radio Campus Orléans. Avec le soutien de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix.